Baba.
I am your father.
On laisse pas Bibi dans un coin.
88 miles à l'heure.
I'll be back.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est de retour comme tous les dimanches soirs à 19h pour une nouvelle heure d'émission de Ciné 7 sur Radio RKS. Et ce soir, je ne suis pas tout seul comme chaque dimanche. Je suis accompagné de ma bande originale. Comment vous allez tous les deux ?
Ça va et toi ?
Bonsoir tout le monde.
Bah moi, ça va très très bien. Vous allez bien, c'est le principal.
Très bien,
et ce soir, on vous en a parlé la semaine dernière. On vous en a aussi parlé la semaine d'avant. Mais ça y est, on le fait enfin. On reçoit notre invité, notre guest star, celle qui a remporté le concours de l'émission spéciale du 7 mars, l'émission de Star Wars, les 3 heures de live sur Twitch et à la radio. C'est Nolwenn. Nolwenn, comment vas-tu ?
Bah ça va super et toi ?
Eh bien merci, ça va très très bien. Alors est-ce que pour tous les auditeurs qui nous suivent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ?
Oui, alors moi je suis en L2 d'architecture, je suis une copine de Jade.
Mais c'était pas truqué.
Mais ce n'était pas truqué.
Non, c'est vrai.
Les gens vont nous le dire, hein, force
pas du
quand
tout.
Même. Mais ce n'était pas truqué, le tirage au sort a été fait sous les yeux d'un huissier.
Mais l'huissier c'est nous.
L'huissier c'est nous, mais le tirage au sort n'a pas été truqué et on vous rappelle que... de nouvelles places seront en jeu pour chaque émission spéciale, donc restez bien connectés si ça vous tente, si l'aventure vous tente. Nolwenn, je t'ai un peu coupé, donc finis ta présentation, vas-y.
Eh ben, je sais pas quoi dire de plus. Je pense que ça me résume. Hein.
Eh ben, très bien, parfait. Donc ce soir, on vous rappelle un peu le principe de cette émission. C'est Nolwenn qui est invitée, mais elle n'est pas là juste pour regarder. Elle va venir nous présenter ses 3 films préférés et on va attaquer très vite avec Dirty Dancing et la musique phare I Have the Time of My Life. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I have the time of my life, and I owe it all to you. So long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, cause we seem to understand the urgency.
I never felt
Voilà, vous venez d'entendre la super musique de Dirty Dancing. Alors, pour vous faire un petit résumé, Dirty Dancing, c'est quoi ? C'est l'histoire d'une jeune fille qui part en vacances avec ses parents et qui va devenir une femme. Elle va faire la rencontre d'un groupe de danseurs qui va la dévergonder un petit peu.
C'est très bien résumé. Hein. Pour moi, il n'y a pas beaucoup plus à rajouter. Effectivement, c'est un film qui est quand même souvent décrié. Hein. C'est un film qui est vu un peu comme un film de jeune fille un peu... dans l'adolescence ou ce genre de choses, mais en même temps c'est un peu la position du personnage principal, hein, quand même, on va pas se le cacher.
C'est un peu l'émancipation de la jeune ado des années 80, quoi, pour le coup.
Alors après, moi je ne l'avais jamais vu, me lancez pas la pierre, mais j'ai été surprise par certains des thèmes qui étaient abordés. Enfin, je m'attendais vraiment à un film un peu naïf, un coming of age movie comme on les appelle aux États-Unis, donc les films qui sont dédiés à l'adolescence, à l'entrée vers l'âge adulte. Et ça a commencé à parler de grossesse, de perdre son bébé, de tout ça. Enfin, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que ça allait être tout léger pendant tout le long. Je n'ai pas été déçue.
C'est vrai qu'on ne parle pas forcément que de danse, Dirty Dancing. Il y a pas mal d'autres thèmes. Ouais, après, c'est vrai que c'est un film quand même assez populaire dans les années 80. Je crois qu'il est sorti en 87 avec des acteurs populaires. Patrick Swayze, il est très, très, très populaire, surtout ces années 80, avec Ghost, par exemple, en 90. Après, je pense qu'il est aussi beaucoup apprécié, bah, d'une part, pour les personnes qui font de la danse, hein, forcément. Je pense que pour les pratiquants de danse, ça a une certaine vocation, ce film-là. Mais aussi, d'une part, aussi la bande-son, qui est très, bah, très années 80. Très 80s
et elle est dans son jus.
Et du coup, voilà, c'est bien dans la veine du coup du film pour le coup, et ça marche du tonnerre, quoi, pour le coup.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes, effectivement, comme tu le dis, Jade. Et c'est vrai que les questions, parce que le père de bébé est médecin, et donc il y a pas mal de sujets de société qui reviennent. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir ça dans un film assez ancien. C'est un film qui, même si je le disais, qui est plutôt décrié, c'est un film qui est souvent beaucoup, beaucoup apprécié. Et notamment, Nolwenn, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques phrases qu'est-ce qui a fait que ce film est dans ton top et que tu l'apprécies autant ?
Alors, ce film, je l'apprécie autant déjà par rapport à l'histoire d'amour assez singulière qu'il y a entre un homme et une jeune fille qui ont assez d'années d'écart et qui, par le biais de la danse, se rencontrent. Et surtout parce que ça aborde des sujets de société qui étaient assez tabous à l'époque. Et finalement, ce film a été assez bien accueilli, alors que on parle de sujets tabous qui sont plutôt durs, finalement. On parle de la perte d'un enfant, quand même, et presque de la mort de la mère. Enfin, je trouve ça assez fort. Mmh. Et voilà, c'est surtout pour, finalement, l'avant-gardisme du film pour l'époque, ouais.
Puis il y a les sujets aussi, la vision qu'ont les parents de Patrick Swayze ou ce genre de choses-là, qui est des sujets qui reviennent aussi.
Les parents de Patrick Swayze ?
Non, ses parents à elle.
Ouais, de bébé.
Ouais, de voir un peu le bad boy et machin, qui veulent pas qu'elle aille avec lui parce que c'est un voyou, ce genre de choses-là. Des sujets qui reviennent encore aujourd'hui, hein, sur les problèmes d'ingérence venant des parents. C'est vrai que ces sujets-là reviennent et s'intègre très bien, ça fait pas lourd dans le film, ça fait pas on parle de ces sujets pour faire bien, et c'est une des forces aussi de ce film là.
Je pense que justement le film, il peut souffrir dans un premier temps d'avoir l'air assez macho, dans le sens où c'est un film où un homme aide une femme à s'émanciper parce qu'elle arrivait pas à finalement s'exprimer et à se détacher en fait de la vie de ses parents. Après, moi j'aurais tendance à le voir dans un autre sens. À mon avis, c'est un film qui a aidé énormément de filles, d'adolescentes, de femmes à l'époque à dire ce qu'elles avaient envie de faire dans leur vie et en fait à choisir leur chemin et à s'émanciper un peu de la vision de leurs parents.
Ouais, totalement.
Surtout ce film, je sais pas si vous avez remarqué, mais il reprend énormément de clichés qu'on a envers les hommes et les femmes, et je sais pas s'ils sont mis en avant s'ils sont mis en avant par volonté ou s'ils sont mis en avant par le fait de l'époque. Mais il y a un passage qui me marque particulièrement, c'est quand la sœur de bébé est vraiment ridiculisée, où on lui parle de chaussures, de robes, on lui parle que de ça. Et en fait, dans ce film-là, elle sert que à faire la pain-bêche. Mmh. Et la mère qui ne sert strictement à rien et qui est juste derrière son père et qui ne prend pas de décision, c'est assez significatif de cette époque-là aussi.
D'ailleurs, la sœur, finalement, elle ne sert qu'à ça dans un premier temps du film, c'est-à-dire elle ne sert qu'à montrer encore plus à quel point bébé est considéré comme sage, comme bien rangé, tout ça, parce qu'elle est le contre-exemple total de sa sœur. Mmh. Donc finalement, on ne prend pas la sœur comme un modèle d'émancipation, mais on la prend comme un modèle de ce qu'il ne faut pas faire.
Qui dit film populaire dit scène populaire, pardon, à la manière par exemple d'un Titanic avec le fameux Jack Je vole. Là, on va avoir du coup le fameux porté réalisé du coup par Patrick Swayze et Jennifer, je ne sais plus son nom de famille, Jennifer Grey et Patrick Swayze.
Petit fun fact, c'était son anniversaire la semaine dernière.
Donc bah, très bien.
Souhaiter son anniversaire.
On peut aussi retrouver dans la folle journée de Ferris Bueller, au cas où.
Ouais.
Pour ceux qui connaissent.
Très bien.
Et ouais, donc, du coup, c'est une scène super, super iconique. Et je ne sais pas combien de couples ont déjà essayé cette fameuse scène. Mais je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû tomber sur le parquet. Quoi.
On en avait déjà un peu parlé lors de la toute première émission. C'est vrai que c'est un peu périlleux comme scène. Et d'ailleurs, c'est tellement périlleux qu'ils s'entraînent dans un lac dans le film. Il s'avère que les scènes dans le lac, enfin, c'est censé se tourner. Enfin, le film est censé se passer en été, puisque c'est un camp d'été qu'elle suit. Mais les scènes ont été tournées en plein hiver. Et donc, c'est pour ça qu'on voit dans le lac et dans la forêt, on ne voit que des plans lointains, puisqu'ils étaient frigorifiés, en fait, les deux acteurs. Ils avaient les lèvres bleues et tout ça. Et c'est pour ça qu'on ne les voit pas de près. Et d'ailleurs, comme ça a été tourné en automne-hiver, les feuilles étaient tombantes, quoi, les feuilles de l'automne, et donc ils ont dû peindre et recoloriser les feuilles en vertes pour faire croire que les scènes se passent en été. Donc,
quand même, du coup, la logistique, quand même, du CGI dans un petit film qui, je pense, qui a pas un gros budget pour le coup. Il doit pas avoir un énorme budget.
Mais alors déjà, je savais pas qu'il avait été tourné en hiver et en automne. Je sais que par rapport à la scène du porté, c'était pas prévu qu'il pleuve. Et au final, ça marche bien.
Ouais.
Et par contre, il y a les scènes où ils apprennent à danser. Il faisait super chaud apparemment dans la salle. Et c'est pour ça qu'on voit, la scène n'est pas trop cohérente d'ailleurs, mais on la voit qui est en brassière. Et à la base, elle ne devait pas être habillée du tout comme ça aussi. Enfin, c'était assez osé. Mmh. Et voilà, et je crois qu'il y a plein de scènes. Il y a eu un peu beaucoup de fails dans ce film qui au final ont bien marché.
Oui.
Parce que la phrase « on laisse pas bébé dans un coin », Patrick ne voulait pas la dire justement, et ils l'ont tournée quand même au cas où. Au final, c'est celle qui a le plus marqué le film.
Ouais, c'est vrai, avec la scène du porté. Et puis une autre anecdote, mais celle-là elle est quand même un peu plus connue, c'est que les deux acteurs avaient beaucoup beaucoup de mal lors du tournage. Ils avaient très très peu d'alchimie, et notamment Patrick Swayze était assez vite énervé du fait que Jennifer Grey soit hilar à quasiment toutes les scènes de danse et de contact.
Mais en fait, comme dans le film pour le coup.
Dans le film, oui, mais c'est vrai qu'il y a certains rires qui sont authentiques, mais du coup, lui, ça l'a vite énervé, puisque c'est un acteur qui a tendance, sur la danse, à vouloir être très, très rigoureux. Et donc, ça l'a vite énervé. Donc, l'alchimie n'a pas vraiment pris.
Après, moi, remettez-moi dans le contexte, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de cette époque, et encore moins de Patrick Swayze. Est-ce qu'il est acteur, danseur, chanteur? Qu'est-ce qu'il est à la base?
Mais je crois que c'est comme Travolta, il est un peu les deux au départ.
Il a tout fait?
Il me semble.
Et est-ce que c'est le film qui l'a révélé ou Ghost c'était avant?
C'était en 1990, donc c'était 3 ans plus tard. Je pense pas que c'est le film qui l'a révélé. Je pense qu'il en a fait d'autres.
Il avait tourné avant, mais en tout cas c'est le film, je pense, qui l'a vraiment propulsé et celui qui l'a fait rentrer au panthéon des acteurs, puisque on s'en souvient quand même pour son rôle dans Dirty Dancing.
Je regarde à peu près sa filmographie. Il y avait juste The Outsider avant 85, donc 2 ans avant Dirty Dancing. Après, non, effectivement, je pense que ça a été, oui, un de ces films qui a fait un peu le tremplin, quoi, pour sa carrière d'acteur.
Et d'ailleurs, il fait un caméo dans le remake Dirty Dancing 2, le très mauvais remake qui se passe à la Havane. Il fait un caméo si vous avez envie de revoir Dirty Dancing.
Avec Diego Luna, celui qui fait Cassian Andor dans Rogue One.
C'est vrai.
Il est nul, ce film. Il est nul.
Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur ce film-là ou on va pouvoir passer à la suite?
Non, mais je pense qu'on a des musiques à entendre.
Effectivement, donc moi je voulais
Attends. Si on a juste rien à rajouter, parce que là sinon elle va me tuer. Ma mère, c'est une très 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 grande fan de Dirty Dancing. Elle l'a vu un bon nombre de fois dans ses jeunes
années. Est-ce qu'elle a fait le porté?
Maman, écoute, tu vas m'appeler juste après le tournage et tu vas me demander si tu as fait le porté, parce que effectivement, c'est un film que tu aimes beaucoup. Donc voilà, je te le dédicace, parce que je sais que tu vas me tuer si je rentre à la maison après.
Et ben, tant qu'on en est sur les dédicaces, moi je fais un gros bisou à ma chérie parce que c'est aussi un de ses films préférés. Elle a même le vinyle de la bande originale dans le salon.
Que tu avais déjà fait la dédicace, la première émission
Ciné 7. C'est sûr, ça m'étonne pas, c'est sûr. Mais en tout cas, on l'embrasse bien fort. Et on va repartir sur la musique. Donc vous avez entendu The Time of My Life qui a reçu l'Oscar de la meilleure musique. Du coup, je me souviens plus de l'année, mais l'année de la sortie du film.
88 du coup, un an plus tard.
Merci Marvin. Et du coup, on va partir sur She's Like the Wind qui est une chanson chantée par Patrick Swayze, qui fait aussi partie de la bande originale, et on se retrouve tout de suite après sur RKS. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind.
Ciné 7, l'émission cinéma de RKS.
C'était le thème principal de American Beauty, donc composé par Thomas Newman. Donc American Beauty qui est sorti en 1999, réalisé par Sam Mendes. C'était son premier long métrage, c'est important de le notifier. En acteur principal, on a Kevin Spacey qui joue vraiment l'antagoniste phare du coup du film. Donc du coup, de quoi parle American Beauty ? Donc ça parle d'une petite famille, donc les Berman. Donc en apparence une famille un peu parfaite qui vit dans une banlieue tranquille, mais en fait les apparences sont très trompeuses dans le sens où Lester Berman fait une crise de la quarantaine. Il supporte plus sa femme, il supporte plus son gosse, enfin sa fille, pardon. Et clou du spectacle, sur sa crise de quarantaine, il tombe amoureux éperdument, enfin surtout il a un gros coup de foudre et une attirance sexuelle envers une mineure, donc du coup la copine de sa fille.
Une très très mineure en plus.
Voilà, qui se nomme Angela Hayes, qui est jouée par Mena Suravi, qu'on retrouve dans la même année dans American Pie, donc deux fois American, deux même année 99.
Mais c'est pas le même propos du film, hein, voilà, c'est pas le même propos. C'est pas tout à fait la même chose.
Et en fait, tout simplement, le film va tourner autour de Lester qui va s'émanciper de sa famille, qui va commencer à refaire du sport, fumer des joints, vouloir draguer une mineure, et en fait, c'est tout simplement, il va péter un câble et sa famille va le suivre dans sa dérive en gros.
Clairement,
voilà. c'est à peu près ça.
Moi j'ai bien aimé ce film parce qu'il y a des moments où il m'a vraiment fait l'effet d'un Malcolm, un peu d'un épisode où on a un daron qui pète un câble, qui redevient adolescent, qui a envie en fait de faire tout ce que sa femme lui a toujours interdit de faire, parce qu'on comprend qu'ils sont mis ensemble très jeunes, que au début c'était sympa, ils s'entendaient bien, la femme était cool, et puis finalement avec les responsabilités, les enfants, les machins, bah elle est devenue chiante. Et moi j'ai bien aimé voir un père qui déraille complètement et une famille qui essaye de rester plus ou moins à flot, mais sans gros succès.
Nalouane, un avis sur ton film?
Moi, je sais pas dire si j'aime ou j'aime pas ce film, justement. Je trouve qu'il m'a... Non, il m'a dérangé, ce film, en fait. Tout le long, j'étais en attente qu'il se passe quelque chose. Et en fait, c'est la fin, c'est l'apothéose du film. Et à la fin du film, tu te dis juste, mais what the fuck? Vraiment. C'est vrai. Pourquoi? Juste le mot pourquoi, je pense qu'il résume ce film.
Moi, je l'ai vu. La fin, je l'ai vu venir gros comme une maison, pour le coup. Mais ça engage rien,
ouais,
à la fin.
Ouais.
J'ai beaucoup aimé la fin, même si du coup, c'est vrai que ça peut être une fin amère pour
c'est une fin un peu particulière.
C'est
quand même
une fin particulière. C'est vrai que ça peut laisser un peu en suspens. On se dit, est-ce que le long métrage est bien fini? Et oui, pour le coup, on voit bien le générique de fin réalisé par Sam Mendes et on comprend pas trop ce qui s'est passé au début. Mm-hmm. Puis après, c'est vrai qu'on va gratter un peu sur la surface du film, on regarde un peu les analyses. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce film. Sans spoiler, c'est très compliqué. Parce que c'est un film, c'est vrai que par rapport à Dirty Dancing, on peut dévoiler la fin, là c'est un peu plus compliqué.
Mais Dirty Dancing, on sait qu'à la fin, il faut emporter, quoi.
Voilà, ouais. Mais du coup là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, on va dire, de résumer sans rentrer dans la case de spoiler, quoi.
Alors moi je vais donner mon avis un peu sur ce film. Vous commencez à me connaître si vous écoutez l'émission.
Il t'a barbé.
Vous savez que j'ai beaucoup de mal avec les films sur lesquels il faut aller creuser après. Pour moi, je trouve
t'es
que...
T'es un fainéant, quoi.
Oui, je suis un feignant. C'est peut-être une des pistes d'explication, mais en tout cas, pour moi, je trouve que soit le film, s'il faut aller creuser, il nous fait réfléchir, soit il faut aller creuser ce que les autres ont pensé et ça ne me plaît pas. Donc, vous savez ce que j'ai pensé d'American Beauty. Il ne m'a pas fait réfléchir par moi-même. Il m'a dérangé, comme l'a dit Nolwenn. Ça, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais je n'avais... Et en plus, il ne m'a pas donné envie d'aller chercher ce que les autres en ont pensé, ce que les autres y ont réfléchi. Donc, pour résumer en deux mots, ce film m'a barbé, effectivement, mais je ne vais pas être méchant avec lui. C'est juste que j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas spécialement de fil... Enfin, il y avait un fil rouge, mais qu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait, qu'il n'y avait pas vraiment de scénar écrit de bout en bout pour savoir où était le début, où était la fin, qu'on suivait le film un peu au fil de la plume et que... Et qu'en fait, bah, il n'y avait pas vraiment de structure à ce film-là, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de pistes qui rentrent, qui en sortent, qui ne sont pas forcément exploitées de la manière dans laquelle j'aime, dans la manière qui me fait suivre un film, et ce qui fait que bah, j'ai presque décroché et que je n'ai pas vraiment apprécié l'histoire.
Toi, t'aimes bien en gros quand un film se suffit un peu à lui-même.
Exactement. J'aime bien quand le film se suffit à lui-même. Alors, soit, comme on l'a dit par exemple sur Dirty Dancing, avec une histoire sympathique qui se lit bien
en termes d'histoire, qui casse pas trois pattes à un canard,
exactement, un film avec lequel on va passer un bon moment en tant que tel, ou un film comme Truman qui se suffit à lui-même mais qui va nous faire réfléchir par nous-mêmes, qui va nous donner envie d'aller creuser, mais Donc c'est des sujets qui ne sont pas vraiment abordés par le film, mais qui sont abordés officieusement et qui nous permettent d'aller chercher. Je trouve que American Beauty nous demande un trop gros effort d'interprétation et de recherche pour qu'il se suffise à lui-même. Voilà pourquoi je n'ai pas vraiment apprécié ce film-là.
C'est bien que tu parles de Truman, parce que justement j'allais y venir, ça me fait vachement penser au Truman Show, dans le sens où c'est une petite banlieue américaine où tout sonne faux.
Et qui a des caméras ?
Non. Oui, non. Oui, avec, ouais, c'est vrai qu'il y a le thème de la caméra, du voyeurisme, ouais, dans ce film. Mais surtout, c'est que par exemple, donc sa femme Angela, qui est agent immobilière, elle a un sourire qui sonne très faux.
Oui.
Elle complimente son voisin, mais on voit que c'est vraiment juste du remplissage. En fait, c'est la société qui veut ça. Et d'ailleurs, c'est dit par son boss qui lui dit que genre il faut qu'elle se fasse belle et tout pour en fait vendre ses biens immobiliers, et que sans ça, en fait, elle y arrivera pas. Donc en fait, c'est vraiment un monde de requins pour le coup, surtout l'immobilier.
Et tant qu'on est aux ressemblances, c'est peut-être parce que je suis un peu matrixé, puisque ma chérie regarde toutes les saisons en ce moment, mais moi ça m'a fait penser un peu à Desperate Housewives, dans le
c'est
thème.
C'est le même schéma,
les thèmes reviennent un petit peu.
Sauf que là, c'est pas les femmes qui sont les persos principaux. Quoi.
Oui, mais pour moi ça m'a fait penser à ça aussi, comme tu disais, dans la banlieue américaine un peu parfaite, mais qui décèle des failles et des problèmes. Et voilà.
Moi, j'ai quand même trouvé que ce film, il avait deux tons. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais comme je disais au début, il y a un ton qui est très léger, très on retombe en enfance, le daron pète un câble, et il y a un ton quand même sous-jacent qui est très très grave, parce que ce dont on parle là, c'est quand même sérieux, c'est quand même un adulte qui a la cinquantaine tassée qui tombe sous le charme d'une gamine. Et j'ai trouvé que parfois, le message que le film voulait véhiculer, bah, ça tombait un peu à plat, ça retombait un peu comme un soufflé, parce qu'on parle d'un sujet grave, et finalement, tout ce qu'on retient de l'histoire à la fin, c'est « Ah, il la rhabille, il se passe rien ».
Et clairement, là-dessus, je suis d'accord avec toi, parce que quand je disais tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas l'impression de savoir où on va, c'est que cette histoire-là arrive très vite, le coup de foudre, et on comprend qu'il va se passer des choses, que des choses vont être mises en place, des choses sont mises en place, et après, on part totalement dans une autre direction. On n'en parle pas pendant une heure et demie de film et on revient dessus les 10 dernières minutes, comme sorti un peu de son chapeau, pour dire bon, c'était quand même un peu le sujet principal du film, on va en reparler, alors que beaucoup d'autres histoires se sont entremêlées et que vraiment on n'a fait aucun point sur l'avancée de l'affaire. Et c'est ça aussi qui m'a un peu gêné, c'est que vraiment le film se définit comme tel, comme une histoire d'un coup de foudre entre un père d'un 40 ans avec une gamine, et qu'on le laisse tomber aussi vite et aussi facilement et aussi longtemps, surtout dans le film. J'ai trouvé ça un peu décevant.
Après, c'est peut-être aussi l'objectif du film. Moi, je pense que Angela, je crois qu'elle s'appelle, la jeune fille, elle est peut-être juste là pour... J'ai l'impression que c'est un peu un pion dans ce film. Elle est juste là pour faire se rendre compte au père qu'il faudrait qu'il change de vie, en fait.
C'est l'élément déclencheur.
Et après, on parle d'un sujet sérieux, comme disait Jade, mais je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du film. Après, est-ce que c'est pas, je vais peut-être loin, mais aussi pour dire que ce genre d'histoire, ça arrive et qu'on n'en parle pas, et que c'est laissé sous le tapis, que c'est peut-être aussi une vision des choses.
Bah, ce qui est sûr, c'est que Angela sert de réalisation, en fait, d'élément déclencheur, pour lui comprendre qu'il n'est pas heureux dans son mariage. Et après, il y a un truc qui est très important de noter aussi, c'est qu'on présente le personnage comme une jeune fille qui cherche un peu, qui succombe aux avances du père, mais qui quand même tâte le terrain, essaye de voir s'il y a moyen, s'il n'y a pas moyen. Mais cette personne-là, c'est une ado, elle est jeune, elle n'a aucune conscience de ce qu'elle est en train de faire, on s'en rend compte à la fin du film. Et je pense que c'est très important, en regardant ce film, d'avoir ce recul et de comprendre que tout ce qui se passe au cours du film est la faute du père et absolument pas la faute de la gamine.
On a aussi un autre thème qui a été abordé dans le film, donc c'est le thème de l'homosexualité, principalement l'homophobie du coup, avec en fait les Berman en fait des voisins, donc ils viennent d'emménager, donc c'est les Fitz, avec donc le père, donc c'était un ancien colonel de l'armée haut gradé, et le voisin Ricky Fitz qui va en fait tomber amoureuse de la fille de Lester Berman.
Et là on tombe un peu dans les clichés des vétérans militaires américains.
Justement, voilà, j'allais y venir en fait. Donc il y a un couple d'homosexuels qui toque à la porte des Fitz pour en fait leur amener un panier garni pour en signe de bienvenue, enfin des deux côtés parce que aussi ils emménagent. Et en fait, le colonel Fitz, il peut pas du tout cacher à ce moment-là son homophobie. Il les repousse assez violemment. Et à un moment, il y a un soupçon comme quoi son fils, donc Ricky, est homosexuel et entretient une liaison avec Lester Berman. Et à ce moment-là, en fait, il le vire de chez lui parce qu'il renonce que en fait son fils soit peut être homosexuel. Donc voilà, il y a ce système-là. Qui en 99 c'était encore assez récent, maintenant c'est vrai que ça a quand même pas mal évolué, ça encore, j'espère que ça va encore évoluer pour le coup, mais en tout cas en 99 c'est vrai que ça choquait pas mal, et c'est bien que Sam Mendes en a parlé aussi dans ce film, autre que du coup des tournements de mineurs, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais du coup aussi parler du thème de l'homosexualité.
Et un thème qui est un peu plus facile à aborder aussi, c'est le thème de la drogue et du trafic, qui vient mais qui est pas énormément présent, parce que effectivement c'est pas que c'est un thème qui est moins grave, mais c'est un thème qui est plus souvent abordé, qui est plus simple à aborder. Mais effectivement il y a des soupçons, enfin le père alors de la famille Fitz est totalement contre, parce qu'il sait que son fils a déjà consommé, et il le traque pour qu'il ne consomme plus, surtout qu'il ne vend plus.
Moi j'ai beaucoup aimé la scène à la fin, alors sans en dire trop, la confrontation un peu entre les deux pères. Mais dans une autre échelle, la confrontation entre deux modes de pensée, deux façons d'éduquer. Enfin, j'ai beaucoup aimé que les deux parties du film, parce que finalement, on a deux histoires qui se mêlent l'une à l'autre. On a l'histoire avec les Burnham et l'histoire avec les Fitz. Et j'ai vraiment bien aimé que ces deux histoires, elles se rencontrent, elles se confrontent. Et qu'on ne sache pas trop ce qui va se passer à l'issue de ces confrontations. On pense que ça va dans une direction. Finalement, le plot twist, ça va dans une autre, mais ça va encore dans une autre. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé ce moment. Et pour moi, c'était vraiment ça, le moment du film. Après, pour moi, perso, si le film s'arrête là, c'est bon.
Bah, d'un autre côté, il ne va pas s'arrêter un peu plus, il ne s'arrête pas beaucoup plus longtemps après.
Après, quand tu disais, Kevin, tout à l'heure, qu'il n'y avait pas de fil conducteur, je ne suis pas d'accord.
C'est pas grave, vas-y.
C'était Kélian, mais
c'est pas grave.
Pardon,
c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave.
Tu pourras le mettre à la fin, c'est drôle.
Les aléas du direct. Les aléas du direct.
J'ai hésité entre les deux.
Donc, on reprend.
C'est pas grave, vas-y.
Du coup, comme tu disais, Kélian, tout à l'heure, qu'il n'y a pas de fil conducteur. Du coup, je suis pas d'accord, parce que je fais référence à ce que disait Jade, que justement ces histoires-là, elles tendent à se rencontrer, et que l'apothéose du film, c'est vraiment quand elles se rencontrent, quand il y a la confrontation entre les deux pères. Et voilà. Et après, pour revenir à ce que tu disais aussi, je trouve que c'est la force du film de donner cette envie justement d'aller plus loin et d'essayer de comprendre ce qui se passe et de le revoir une deuxième fois, peut-être pour avoir un autre avis et un autre regard sur ce film, parce que tu sais déjà ce qui va se passer à la fin.
Vas-y, c'est bon. J'en parlais juste avec Jade quelques jours avant, quand du coup on blablatait sur American Beauty. Elle me disait ce qui était intéressant, c'est qu'aussi il y a plusieurs petites histoires qui sont entremêlées dans ce film-là. Donc par exemple entre les Berman, entre les Fitz, on a du coup aussi une romance qui se crée entre la fille de Lester, je ne me rappelle plus de son nom, mais bon, c'est la fille de Lester Berman à ce moment-là, qui est une ado qui doit avoir 16-17 ans, tout pété, qui est mal dans sa peau, qui a envie de se faire une augmentation de poitrine, donc qui est au plus mal, et Ricky qui est du coup, comme tu l'as dit, un voyeur, donc du coup il y a le thème du voyeurisme, du coup qui est caméraman à 7 heures perdues, qui a un tas de cassettes, chez lui, et du coup voilà, on a une romance entre ces deux là on a aussi du coup Lester Berman qui veut s'émanciper de sa femme, qui quitte son boulot aussi, qui est employé dans un fast food à ce moment là donc en fait il veut plus avoir de responsabilité, il veut juste en fait rentrer chez lui et être tranquille pour le coup. Et sa femme aussi, qui est du coup à un moment, il y a la tromperie aussi, du coup il y a aussi la tromperie qui est mise dans ce film là donc il y a pas mal de thèmes, mais aussi pas mal de petites histoires. Ça nous permet, je pense, de bien accrocher. Aussi, le point fort pour moi du film, et ça il le fait pas beaucoup, mais quand il le fait, ça nous happe un petit peu, c'est souvent quand il y a une espèce de une nouvelle histoire qui va se créer, c'est la narration de Kevin Spacey, tout simplement. Même au début du film, il va en parler, et surtout surtout la fin, en fait, la fin, sans en dévoiler trop, il y a une longue citation de Kevin Spacey qui est vraiment magnifique. C'est tout en légèreté dans ce film, et ça nous permet de comprendre plus ou moins la fin amère pour certains ou certaines.
Ce que j'aime bien dans ce film aussi, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à voir l'Amérique comme un pays, enfin les États-Unis pardon, comme un pays qui a sexualisé énormément de choses. Mm-hmm. C'est vrai que c'est un pays qui a sexualisé les jeunes filles, qui a sexualisé franchement jusqu'au dessin animé. Hein. Il y a pas mal de choses de notre enfance qui ont été un peu pourries par les États-Unis, on va pas se mentir. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est que comme ça, au premier regard, il y a des gens qui peuvent se dire par exemple, je sais pas, des quadragénaires un peu frustrés dans leur vie. Ah tiens, je ressens la même chose dans ma vie, je me sens coincée dans ma vie avec ma femme, avec mes gamins, j'en ai marre et tout. Des gens qui vont commencer à s'identifier à cette histoire. Et j'espère sincèrement qu'ils arrêtent de s'identifier très très vite à cette histoire. Mais j'aime bien le fait que ça pointe du doigt un problème de société.
Il y a aussi le thème très présent, enfin le symbolisme de la rose, qui est d'ailleurs sur la jaquette du film, du DVD. C'est souvent en fait quand Lester fantasme sur Angela, on peut voir Angela du coup nue dans un bain de pétales de rose, mais aussi dans un espèce de... Alors en fait il est sur le lit et il la voit sur le plafond, et du coup c'est la jaquette du film, c'est super connu, du coup elle est nue mais il y a vraiment plein de roses autour d'elle, et Lester en fait il déborde de roses sur lui.
Est-ce que c'est agréable un bain de roses, de pétales de rose?
Alors là aucune idée.
Bah, j'attendais que tu me le dises, Kéliane, mais si t'as pas de réponse.
La rose, bah, dans les films, c'est très présent. Bah, c'est pour le symbolisme de l'amour, du désir, du fantasme. Enfin, il y a pas mal de thèmes comme ça. Le rouge, surtout, c'est quelque chose. C'est une couleur très, comment dire,
passionnelle.
Passionnelle, sexuelle. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui reviennent. Mais en tout cas, voilà, la rose est super présent. On voit même une au début du film, je crois, il y a la femme de Lester. Qui coupe des rosiers, et ça va revenir plusieurs fois dans ce film-là, et les rosiers, au fur et à mesure du film, du côté des Berman, ils vont se dégrader, ces rosiers-là. Donc ça peut en laisser un peu, on va dire, sur le carreau, mais en tout cas, c'est pour dire que la famille va commencer un peu à se dissoudre.
Moi, je suis d'accord avec toi sur tout le côté, les roses passionnelles, tout ça, mais c'est pas un hasard que c'est cette fleur qui a été choisie, et n'oublions pas qu'une rose, ça n'a pas seulement des pétales, ça a aussi des épines. Et à mon avis, c'est aussi le revers de la médaille dans ce film.
Est-ce que c'est pour faire une référence à La Belle et la Bête?
Non. Non, en vrai, j'en sais rien.
Moi, deux petites choses. J'aimerais bien revenir sur le titre du film, parce qu'on l'a souvent demandé, surtout à Sam Mendes, s'il y avait des significations. Et mis à part... le côté justement du rêve américain, de la petite banlieue et tout ça, en fait, il laisse la question assez ouverte. Et ça, je trouvais ça intéressant de se dire, bah, en fait, le titre n'a pas vraiment de définition. Chacun fait sa propre définition. Est-ce que c'est la beauté de l'amour? Est-ce que c'est la beauté de Angela? Est-ce que c'est la beauté de la vie? Ben voilà.
Après, généralement, enfin, dans l'expression American Beauty, c'est utilisé pour parler de quelqu'un. C'est, enfin, quand on utilise cette expression dans le contexte, c'est pour dire cette personne-là, enfin, c'est le petit cœur de l'Amérique.
Quoi. C'est le cul de l'Amérique.
Alors non.
Pour ceux qui ont la référence.
c'est une expression qu'on utilise pour parler de quelqu'un qui est vraiment belle, en fait, qui pourrait représenter un pays, quoi. Mais c'est aussi, enfin, il est mentionné à un moment dans le film. Quand on parle d'Angela, je ne sais plus qui c'est, mais il y a quelqu'un qui dit que c'est une vraie beauté américaine, donc vraiment quelque chose qui pourrait s'apparenter à une égérie, quoi, l'égérie de tout un pays.
Est-ce que Nolwenn, tu as des choses à rajouter sur American Beauty? Ou est-ce que tu veux qu'on passe à l'autre?
Il y a le thème de la violence qu'on n'a pas abordé
aussi,
dans ce film.
Surtout avec du coup, le voisin, ouais. Avec le colonel. Ouais.
Bon, après, sur le thème de la violence, entre guillemets, j'aimerais bien revenir, pour moi, mon plus climax du film, c'est l'engueulade entre Kevin Spacey et sa femme.
Alors, il y en a plusieurs,
Oui, mais au dîner. Alors,
quand il balance l'assiette?
Quand il pète un câble. Ouais. Et moi, je trouve... Alors, on va mettre de côté tout ce qui est polémique sur Kevin Spacey et actualité, parce que ça ne nous regarde pas, c'est pas à nous d'en juger. Mais par contre, ça n'empêche que sur cette scène-là, je trouve qu'il est juste magistral, il est à son apothéose, et qu'il fait une scène d'une grande maîtrise et d'une grande beauté. Et c'est assez rare que je dise ça d'une scène ou d'un acteur. Alors, on est bien d'accord, je ne cautionne pas ce qui peut se passer à côté. Je parle vraiment de la scène. Et
oui,
on peut rôle
enlever
d'acteur.
On n'est pas non plus pour
bon
les
acteur.
Violences domestiques. Hein.
Exactement.
Non, mais on peut pas enlever ça, c'est que c'est un super acteur, Kevin Spacey. Il a fait aussi Usual Suspect et tout, c'était des super films. Même voilà, malgré les polémiques et tout, ça reste un super acteur qu'on reverra plus dans des films, je pense, en tout cas pas des gros films, et tant pis, quoi, c'est la vie. En tout cas, on profite des films qu'il a pu faire avant. Notamment American Beauty et Usual Suspect, et c'est deux chefs-d'œuvre, donc c'est très bien, quoi.
Effectivement. Tu avais du coup quelque chose à dire sur la violence ou pas, Nolwenn?
Sur la violence, non, mais pour revenir à ce que vous disiez, c'est surtout, je trouve que il est vraiment fort dans ce film. J'ai pas vu de film autre que Usual Suspect avec cet acteur, mais vraiment je trouve que tout le long du film, ce mec, en fait, on dirait juste que c'est un pervers, et on n'arrive jamais à savoir ce qu'il pense, en fait.
Oui.
Il a une poker face tout le long, et juste, il est intriguant, il est dérangeant. Ouais.
Et c'est fort.
Dans Usual Suspect et dans House of Cards, c'est un peu le même principe, ouais, d'ailleurs.
C'est vrai qu'ils jouent toujours des personnages un peu sociopathes, un peu sur le fil du rasoir. On ne sait pas s'ils vont se ranger, s'ils vont craquer en un claquement de doigts.
J'allais oublier Seven.
Oui.
Il joue le tueur psychopathe, il joue hyper bien dedans. Seven, c'est un chef-d'œuvre, il joue tellement bien. Bon, pourtant, on ne voit que 20 minutes à la fin du film, mais c'est une prestation hyper marquante. Et pour le coup, c'est vrai que, comme Jade l'a dit, il joue des rôles assez dérangeants.
Un peu particuliers.
Et c'est vrai que quand on a vu American Beauty et qu'après on connaît la polémique sur Kevin Spacey, ça peut être assez malaisant de regarder le film.
À se demander si c'était du jeu d'acteur.
Exactement. On va pouvoir passer à la suite, au dernier film. Mais avant ça, on va écouter du coup la musique qui s'appelle The Dragon Boy. Et on se retrouve tout de suite sur RKS.
On vient d'écouter la musique The Dragon Boy, je crois, si je me trompe.
Exactement
pas.
Exactement ça.
Du voyage de Chihiro, et c'est moi qui m'y colle. Alors, le voyage de Chihiro, c'est un Miyazaki qui est sorti il y a pas mal d'années maintenant. Je me souviens de l'avoir vu assez jeune.
Depuis le temps que vous nous demandez un Miyazaki, ça y est, il est là.
J'ai 2001. Pas la date exacte, 2001. Ah oui, il y a pas mal d'années. De quoi ça parle?
Ouais,
ça parle
fait 20 ans quand même. Hein.
On s'arrête là. Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Chihiro, qui vient de quitter la ville où elle a grandi et qui s'apprête à emménager dans un nouvel endroit avec ses parents. Et en fait, ils arrivent dans une ville un peu fantôme, un peu mystère. Au début, il se passe pas grand-chose. Ses parents se mettent dans un coin pour une scène assez iconique, on en reparlera sûrement après. Et Chihiro commence à explorer. Et en fait, elle se rend compte qu'elle a bien mis les pieds dans une ville fantôme qui se réveille quand le jour se couche. Et à ce moment-là, elle se fait happer dans ce monde et il se passe toutes sortes de péripéties qui font qu'elle va vivre un véritable voyage. Pap !
Pap !
Bam !
Bam ! Nolwenn, un avis sur ce film ?
Alors moi j'aime bien ce film déjà parce que c'est un Miyazaki.
Ça nous aurait étonné.
Je suis fan des Miyazaki. Et surtout parce que c'est l'histoire d'une enfant en fait, c'est elle le personnage principal. Et j'ai bien aimé tout ce monde fantastique autour du voyage de Chihiro. Et surtout l'interprétation, la libre interprétation qu'on peut avoir dans ce film de tous les éléments qui le composent finalement. Et voilà, je crois que c'est tout.
Est-ce qu'on peut me faire un rappel du titre original? Parce que je crois qu'il est plus parlant que le titre français.
Alors, c'est Spirited Away.
Oui, mais en version originale, s'il te plaît, Jade.
Ah ouais, ben non. Non, je ne l'ai pas en japonais.
Non, mais sinon, en anglais, c'est bien.
C'est
aussi
la même chose?
Je crois.
Donc, Spirited Away, qui est un peu difficile à traduire, mais qui en gros signifie que Spirit, c'est un esprit. Donc, c'est le fait, en fait, de se transformer en esprit et de vagabonder un peu, pour faire court.
Ouais, une errance un petit peu, c'est ça?
C'est ça.
Donc, je préfère le titre américain, moi, perso.
Ouais, c'est un peu plus parlant.
Ouais, exactement.
Enfin, ça colle mieux au film, quoi.
Ou c'est moins parlant, mais du coup, ça colle mieux au film.
Ouais.
Ouais. Moi, j'aime beaucoup le travail de Hayao Miyazaki. Même si, du coup, j'ai un problème avec ces films-là. Et j'en ai avec, par exemple, Seigneur des Anneaux. En fait, je reconnais que c'est des super films. Genre, vraiment, j'adore. C'est des chefs-d'œuvre et tout. Mais ça n'a jamais été mes coups de cœur et tout. J'aime beaucoup les regarder. Mais pour moi, ils sont oubliables. Et je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je sais que c'est des super films. Je pense que c'est aussi le fait que j'ai grandi avec beaucoup Pixar. Je pense que ça a été. Ça a été un peu du plus. Enfin, comment expliquer, Pixar, c'est plus popcorn. Là, Hayao Miyazaki, c'est quand même plus poussé comme. Comme taf, c'est vrai qu'en ayant revu Le Voyage de Chihiro, on passe à un gosse de 6 ans, parce qu'il y a quand même des scènes qui peuvent laisser sur le carreau les enfants, surtout par exemple Princesse Mononoké qui pour le coup est très violent lui celui-là. Ouais. Après pour moi il est vraiment génial, il y a quand même le graphisme et tout, les personnages sont très travaillés, mais ça c'est Hayao Miyazaki, pour ça il est très bon, tous ces personnages sont super travaillé, super bien dessiné, ils ont tous des couleurs différentes, des formes différentes, surtout avec du coup les personnages du coup du Voyage de Chihiro, avec notamment la, comment on appelle ça, la méchante, Baba Yaga.
Yubaga. Ouais, Baba Yaga, on est en Russie.
Qui est en gros une espèce de une chouette. Je crois, c'est ça. Ouais, une espèce de chouette avec une énorme tête disproportionnée, un nez très 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 crochu, et c'est vrai que tu vas pas voir ça dans un Pixar pour le coup.
Est-ce que c'est moi ou elle ressemble à la grand-mère dans Le Château ambulant?
Ouais, mais tous les personnages de tous les films, il y en a toujours qui se ressemblent entre eux.
D'accord.
Les visages sont quasiment toujours avec un rappel des autres films. Enfin, c'est vraiment le lien que j'ai fait.
Et après, on va pas rentrer dans le cliché que tous les Asiatiques se ressemblent.
Ouais, non, non.
Loin de moi cette idée.
Il a le droit de faire la blague, il est asiatique.
Oui, il y a que deux personnes dans le studio qui ont le droit de faire la blague, on ne dira pas lesquelles. Moi, mon rapport à Miyazaki, effectivement, il est un peu comme le tien, Marvin. Sauf que même maintenant, j'ai encore du mal à m'y attacher. J'ai encore du mal même à les voir. Je trouve qu'il y a souvent des longueurs. Notamment, par exemple, j'ai vu Le Tombeau des Lucioles. Vous savez, vous me connaissez un petit peu aussi, vous savez que je suis très attaché à l'histoire. Donc je me suis dit que Le Tombeau des Lucioles allait pouvoir me plaire. En plus, c'est un sujet qui est très sensible. Et en fait, le film m'a plu, mais sans plus. Et notamment parce que je trouve que dans les films japonais, ils ne font que courir.
Après, Le Tombeau des Lucioles, c'est pas Miyazaki.
Non, c'est pas Miyazaki, mais je crois que c'est une production...
Ghibli. Ouais, c'est le studio Ghibli.
Ouais.
Il est triste, surtout.
Il est triste, mais par exemple... Triste.
En fait, la sauce directe.
Mais par exemple, je trouve que dans les Ghibli et dans les Miyazaki... Et ben, il court tout le temps. Et enfin, bon, bref, c'est pas un problème.
C'est-à-dire, il court genre le film va vite ou alors les personnages courent.
Les personnages courent. Je trouve qu'ils sont tout le temps en train de courir.
Ouais, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup qui marchent. Ouais. Surtout dans Chihiro, les seuls personnages finalement qui marchent, limite, ils rampent.
Mm.
Et c'est les âmes en fait.
Oui.
Et sinon, les personnages humains courent presque, ouais, tout le temps. Ils sont très très pressés.
Moi, j'aime bien je sais pas si vous les avez remarqués, mais c'est les petits canards avec une feuille sur la tête qui traverse le pont dans la toute première scène.
Ouais. Et là, ami Totoro.
C'est ça, je fais une dédicace à Alex parce que c'est elle qui m'a fait découvrir ces petits canards et c'est vraiment une passion depuis. Mais effectivement, comme tu disais, moi aussi j'ai plutôt grandi de l'autre côté du Pacifique, donc avec les studios d'Hollywood et avec Disney Pixar. Donc je suis beaucoup plus attaché à ce studio de production-là. Mais c'est vrai que, parce que j'ai grandi avec, on grandit rarement avec un Miyazaki. Parce que à part Totoro... qui se regarde plutôt bien quand on est enfant, et c'est le seul Ghibli Miyazaki à qui je suis vraiment attaché. Les autres, c'est beaucoup plus compliqué quand on est jeune de rentrer dedans, et encore maintenant, j'ai du mal à rentrer dedans.
Alors attention, hot take, unpopular opinion, comme on dit dans le milieu. On en parlait hier avec Marvin, et on s'est dit, c'est marrant parce que les films d'animation japonais, ils ont pas mal de sujets différents, le scénario il part un petit peu dans tous les sens, et parfois c'est difficile de suivre. Notamment dans ce film-là, Le Voyage de Chihiro, il y a 400 arcs narratifs différents, il se passe plein de trucs. Franchement, si vous lâchez le film 2 minutes, vous êtes perdu. Et on comparait ça aux films d'animation des Pixar, etc., où généralement, on a une trame, un arc narratif, et du début à la fin, on sait où on va. On a suggéré l'idée que c'était peut-être parce que les enfants américains ont la réputation d'être moins disciplinés et d'avoir moins de facilité d'attention, et donc ils ont besoin de se concentrer sur moins de choses à la fois.
Bah, peut-être les enfants du monde, puisque quasiment tous les enfants du monde regardent les films des Disney Pixar, mais je pense que surtout parce que les films d'animation japonais ne sont sûrement pas fait pour un public de jeunes, même au Japon. Je pense que, on le sait, la culture japonaise est baignée par les animés et par les mangas. Et la plupart, ce ne sont pas les jeunes qui regardent les animés, mais plutôt les jeunes adultes ou les adultes. Et je pense que les films des studios Ghibli, ce serait intéressant de regarder, mais les films des studios Ghibli au Japon, sur leur terre, ne sont pas destinés à un public de très très jeunes, je pense, personnellement.
Il y a des scènes très récurrentes dans les Miyazaki, et le voyage de Chihiro ne déjoue pas la règle, c'est les scènes de cuisine, donc les scènes de nourriture, de manger. Il y a énormément, dans tous les Miyazaki, il y a toujours, les personnages mangent toujours, et ils mangent vraiment d'une façon très gargantuesque, avec vraiment plein d'aliments sur la table, et surtout du coup l'intro du voyage de Chihiro avec les parents... De Chihiro, pardon, qui en gros vont se goinfrer dans un buffet un peu à volonté, mais ils savent pas du tout à qui appartient ce buffet là, mais ils disent c'est pas grave parce qu'on a de l'argent sur nous, on payera après, et ils vont se transformer à ce moment là en porc. Alors c'est vrai que quand je l'ai vu enfant, ça a été assez bizarre. J'avais pas trop compris pourquoi.
Attends, j'ai vu Princesse Mononoke, je devais avoir 7 ans. Ok. Ouais.
Tu l'as pas fini.
Non, la scène d'intro, elle m'a suffi.
Mais est-ce que du coup, vous avez compris, vous, pourquoi. Enfin, je suis allé voir, mais du coup, est-ce que vous avez compris pourquoi ils se transforment en porc?
Parce qu'ils ont profané un buffet pour les âmes, donc c'est une punition.
Moi, c'était plus simple, c'est parce que, comme dit Yubaba Ayagaga, ils se sont comportés comme des cochons, enfin. Ils ont mangé comme des porcs, elle le dit elle-même, donc ils ont eu la punition qu'ils méritaient.
Bah c'est vrai qu'ils prennent pas juste une assiette, hein. le daron il en prend au moins 6 quoi, il en plante.
Ah non, ça tape partout. Un buffet à volonté après 3 jours de diète là.
D'ailleurs ça manque les buffets à volonté.
On dirait Marvin et Jade au KFC.
Il s'agirait de pas déclarer.
D'ailleurs ça manque les buffets à volonté, vrai, on en reparle par rapport à la fermeture des restos, c'est assez compliqué.
C'est vrai. Est-ce que vous avez encore d'autres choses à dire sur ce très beau film d'animation ou pas?
Oui, on est quand même sur un niveau d'esthétique qui est très très haut.
Oui.
Je ne sais pas si on en a déjà parlé parce qu'il y a des moments où j'ai un peu arrêté de suivre, mais c'est quand même un level au-dessus. Alors, on n'est pas dans le niveau de détail de Pixar, on ne va pas avoir une animation cheveux par cheveux, mais je trouve que l'animation à la japonaise a un charme quand même très très particulier.
Disons qu'on n'est pas sur de l'animation technique comme peuvent le faire les Américains, aux cheveux par cheveux avec des textures très très poussé, mais par contre on est sur une animation avec un univers extrêmement poussé. Chaque figurant, chaque personnage n'a pas le même look, a un style différent, a des couleurs différentes, et ça c'est vrai que c'est très surprenant et très appréciable, surtout quand on est spectateur.
Tout à fait. Moi j'ai tendance à être beaucoup moins touchée par une animation à la Pixar qui se rapproche de plus en plus du réel, parce que finalement moi je suis venue pour regarder un film d'animation, pas pour regarder un film. C'est vrai que c'est très impressionnant, mais par exemple j'ai regardé il y a très peu de temps, j'ai re-regardé Lilo et Stitch, et rien que de voir les décors qui sont en fait des aquarelles dans lesquelles les personnages évoluent, je trouve ça incroyable.
Il y a un personnage qui pour moi... Enfin, c'est le personnage secondaire du film, pourtant il décroche pas un mot, il est souvent en second plan. C'est l'espèce d'esprit avec le sans-visage. De quoi? Aku, il s'appelle... Non,
Aku, c'est le dragon.
C'est le garçon. Alors, je me rappelle plus son nom, mais sans-visage. C'est Kao Nashi, qui est du coup l'espèce de... qui est l'espèce de spectre avec le sans-visage, avec l'espèce de masque.
Ah oui, c'est lui qui est tout le temps.
Qui pour le coup, déjà d'une, il décroche pas beaucoup de mots, il fait seulement un bruit. Est-ce que vous voulez que je l'imite, parce que vous savez que j'aimais bien?
Oui, vas-y.
Il fait voilà, comme ça. Ouais, c'est ça.
On pourrait laisser à Nolwenn l'occasion d'essayer, vu qu'elle est invitée ici. C'est parti.
On dirait autre chose, mais...
Là, on a des super moments de radio, hein, vous le dites.
Mais du coup, voilà, ce personnage-là a la faculté de pouvoir créer de l'or, en fait, en distribuer à tout bon semble. Et en fait, pendant une partie du film, il est totalement invisible dans le spa, et personne le calcule. Et dès que monsieur a de l'or, tout le monde va le calculer.
C'est clair.
C'est en gros un peu...
C'est la poule aux œufs d'or.
Ouais, si tu regardes, Chihiro, elle trahit pas ses valeurs. Elle le prend pas, l'or.
Mais c'est une enfant.
Ouais, mais je trouve que ce film, vraiment, il est marquant parce que tu vois une enfant se débrouiller toute seule sans ses parents et finalement faire le chemin de vie qu'on va tous atteindre, c'est-à-dire se débrouiller par ses propres moyens, obtenir du respect, travailler pour avoir de l'argent, et elle pourrait juste prendre l'argent de l'âme et elle ne le fait pas.
C'est vrai.
Après, en tous les cas, dès le début, on pouvait se douter qu'elle s'en sortirait mieux sans ses parents, vu que le père est présenté comme quelqu'un qui fait des excès de vitesse, qui fait n'importe quoi sur la route.
C'est vrai.
Après, il profane un buffet, il mange comme des cochons alors que personne ne les y a invités. Au bout d'un moment, on se dit, on ne sait pas par qui elle a été éduquée, mais elle s'en sort mieux toute seule.
Après, surtout, elle ne prend pas l'or parce qu'en fait, ce n'est pas son but. Ce qu'elle veut, elle s'est retournée dans son monde avec ses parents. Donc typiquement, l'or, elle en a rien à foutre parce qu'elle ne va pas l'utiliser dans son monde à elle. Enfin, dans ce monde, dans leur monde à eux, pardon.
Exactement.
On est bon ?
Sur ces belles paroles de philosophie, on va pouvoir conclure
avec le top de Nolwenn.
Avec le top de Nolwenn, effectivement.
Alors, qu'est-ce que le top de Nolwenn ? Tu vas nous dire les films que tu as préférés dans l'ordre et on va te suivre après et faire notre propre top.
En 1, je dirais Dirty Dancing. En 2, Chihiro. Et 3, American Beauty.
Alors, moi, je vais mettre American Beauty en premier, une bonne découverte. Ensuite, Chihiro. Et en 3, Dirty Dancing.
Et bah, moi, je vais te suivre, Jade, sur ce thème-là.
Moi, Dirty Dancing, Chihiro, parce que c'est un animé et je salue la performance animée. Et American Beauty en dernier. Voilà.
Okay.
Il va nous rester quelques minutes pour vous parler de la semaine prochaine.
Alors,
on vous en a déjà un peu parlé.
J'en profite pour remercier Nolwenn d'avoir accepté l'invitation.
On remerciera Nolwenn.
Mais surtout de nous avoir proposé des films aussi variés parce que c'est très rare qu'on mélange les genres dans les émissions.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on a des thèmes souvent et on tourne un peu sur les mêmes choses. Et là, c'était très très varié.
Et différentes donc, décennies aussi, 80, 90 et 2000.
Exactement. Exactement, 10 ans à chaque fois qu'il les sépare. Donc on rappelle que Nolwenn a gagné le concours du live de 3 heures. On la remercie déjà d'avoir participé. On la remercie d'avoir accepté l'invitation. Et surtout, on vous rappelle qu'une invitation sera en jeu la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on retourne sur un live de 3 heures. Donc dimanche 11 avril, à 19h, de 19 à 22h, en direct sur Radio RKS, radio-rks.fr, donc le 97FM, le site internet, l'application, et sur Twitch, twitch.tv/radio-rks. Et on se retrouve pour 3 heures de quoi, Marvin, s'il te plaît, la semaine prochaine.
Nous allons parler la semaine prochaine.
Bah oui.
Alors là, tu m'as pris de court, je ne me rappelle même plus.
Mais 3 heures la semaine prochaine,
pardon,
Marvin.
C'est le Seigneur des Anneaux.
Le Seigneur des Anneaux. Et le Hobbit.
Voilà,
on aura
6 bons films.
6 bons films, 2 bons invités. Des lots encore à vous faire gagner, donc on vous espère nombreux. Et donc
avec
ce
notre ami Mathis.
Avec notre ami Mathis.
Et on vous espère en grande forme, parce que comme je l'ai déjà dit, moi je serai en grande forme, et attention, je suis l'encyclopédie.
Exactement, on vous espère tous en grande forme, et puis ça nous remettra un peu du baume au cœur après les annonces qu'on a eues ce mercredi. Ça nous permettra un peu de se changer les idées et de voir du monde, même si c'est à travers un écran, on verra du monde, on sera là en tout cas, on sera là pour vous, et on vous espère du coup nombreux la semaine prochaine. En tout cas, nous, on espère que l'heure vous a plu. Nolwenn, est-ce que l'heure t'a plu ?
Yes, c'était super, merci pour l'invitation.
Merci à toi d'être venu, est-ce que tu reviendrais ?
Ouais, avec plaisir.
Alors,
et est-ce que cette fois tu te souviendras qu'il s'appelle Kélian ?
Non, c'est Kevin pour moi toujours.
Ouais. Je vais aller voir l'état civil, peut-être qu'ils pourront faire quelque chose. En tout cas, on vous laisse sur Radio RKS avec des morceaux de nous. C'est Flo qui reprend la main tout de suite. Et nous, on se dit à la semaine prochaine à 19h, comme tous les dimanches à 19h.
Salut.
Bonne soirée tout le monde.